Le verset se trouve dans le psaume 50, verset 15. Voilà ce que ce verset dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce verset-là, j'aime bien le lire, même si je le connais par cœur. Mais ce verset-là, je vous l'ai dit, ce n'était pas prévu, hein, donc je vais être un peu plus long. Hein, ou sinon, je vais aller plus vite. Ce n'était pas prévu, mais je vous le donnais parce qu'il m'a béni et sûrement il va vous bénir aussi. Ce verset-là, il nous montre les moments. Quand c'est le moment? Et il nous est dit au jour de la détresse. Quand c'est qu'on doit invoquer le Seigneur? Les jours de la détresse. Et qu'est-ce que c'est les conseils qu'il nous donne au jour de la détresse? Invoque-moi. C'est ça le grand Dieu que nous avons. Lorsque les choses vont mal, on passe par des moments difficiles, invoque-moi. Et la promesse, quelle est la promesse? Je te délivrerai. Je te délivrerai. Encore une fois, c'est le grand Dieu que nous avons. Et le résultat de toutes ces choses-là, il nous l'a dit, tu me glorifieras. Lorsqu'on est dans la détresse, il nous donne un conseil, Dieu. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Quelle est la promesse qu'il nous fait? Je te délivrerai. Je te délivrerai et les résultats, tu me glorifieras. Vous savez que nous avons été créés pour glorifier Dieu. Et justement, chaque fois que Dieu il intervient, il nous guérit, il nous fait passer, même il fait passer par des difficultés, c'est pour le glorifier. C'est difficile de glorifier Dieu lorsqu'on est dans la tristesse, dans la souffrance, n'est-ce pas? Et c'est ça que notre sœur Ingrid a fait. Elle a dit, je continue à faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur, il nous fait cette promesse qu'il va délivrer. Voilà, je ferme là. Et je vous invite à écouter ce que le Seigneur il m'a donné pour partager avec vous. Il y a quelque temps, je vous avais parlé des vaillants hommes de David. Vous en souvenez? Pour ceux qui ont de la mémoire, moi je la perds de temps en temps, mais je regarde souvent ce que j'ai prêché. Hein? Et ce matin, je vais vous parler d'un roi. Ce roi-là, il s'appelle Ézéchias. Il a été roi en Judée. Il y a Mazzini, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un compositeur italien qui vivait à l'époque dans laquelle les Autrichiens ils occupaient l'Italie. Alors, ce grand compositeur, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, « Dieu ne nous a pas créés pour rester passif, mais pour agir. » Donc, il dit, « Rebellons-nous et agissons. » C'est-à-dire qu'il faut agir. Nous avons une foi, la foi que nous avons, elle n'est pas une foi statique, mais c'est une foi qui agit, qui avance constamment. Hein? Bien sûr, beaucoup de gens, ils le disent souvent, ils discutent, ça parle, mais ils n'agissent pas. Notre pasteur Bob le disait souvent, « Ah, il faut faire ça et ça et ça. » Il disait, « Mais qui ?»« Faisons des choses, faisons ça et ça et ça. » Il disait, « Mais qui ?» Il faut agir. C'est ce qu'il disait. Et pas parler. Il y a un autre personnage, toujours en Italie, hein, je m'excuse si j'ai un peu regardé l'histoire italienne. Hein. C'est Mussolini, vous connaissez ? Oui, sûrement. Mussolini, il voulait aller conquérir les pays en Afrique. Et alors, il faisait des grands discours, plein de monde dans la place à Rome. Et il disait, armons-nous et partez. Armons-nous et partez. Et il parlait, il disait les choses, mais il dit, partez, moi je reste à Rome. Voilà, combattez, faites-vous tuer. Il ne faisait pas. Il ne mettait pas en pratique ce qu'il disait. Il disait pour les autres, c'est bon. Hein? Et ce matin, je veux regarder ce roi, Ézéchias, que c'est un homme courageux. Et aussi, c'est un homme à imiter. À imiter. Voilà pourquoi je l'ai choisi, pour que nous puissions avoir du courage et que nous puissions l'imiter. Pourquoi l'imiter ? Parce qu'il a vécu selon la volonté de Dieu. Il a fait les choses que Dieu lui disait. Avons-nous envie de faire cela ? Sûrement que oui. Alors, regardons un peu la vie de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pour que la Bible le définisse un homme courageux et un homme à imiter. Et pour cela, ouvrez vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 18. On va lire les versets 1 jusqu'à 8. C'est là qu'on trouve ce qu'il a fait, comment il a fait. Et lorsqu'on fait les choses comme Dieu le désire, automatiquement, nous sommes bénis. Même si les gens autour de nous, ils nous voient malheureux, ils nous voient dans la misère, mais aux yeux de Dieu, nous sommes bénis. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est les yeux que Dieu a sur chacun de nous, pas sur ce que les autres ils peuvent penser. Alors, verset 1. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda, l'Éternel, Dieu d'Israël, est parmi tous les rois de Juda qui virent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre les rois d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis le tour de garde jusqu'aux villes fortes. Voilà, jusque-là, que le Seigneur bénisse sa parole. Ces 8 versets, ils sont pleins d'enseignements. Premièrement, il nous dit que son père, c'était Akaz. Akaz, c'était un roi très mauvais. Très mauvais. Qu'il était entièrement contre le peuple d'Israël. Il l'accablait en toutes choses. Et lui, c'était son fils. Comme quoi, les péchés du père ne doivent pas tomber sur les enfants. Et ce n'est pas parce qu'on a un père mauvais, un père méchant, que nous, automatiquement, nous devons l'être. Parce qu'ici, il nous est dit qu'Ézéchias, au lieu de suivre son père, il suivait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est exactement ce qui nous enseigne premièrement ce roi, que nous devons pointer les yeux sur Jésus. On vient de le chanter tout à l'heure, hein? Jésus, ma vie, Jésus, mon espoir. Et pas regarder autour de nous, car nous sommes des mauvais, nous agissons méchamment. Mais si nous regardons à Jésus, qui a agi selon la façon de Dieu, pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu, alors nous allons suivre ses pas. Ézéchias, il l'a fait, malgré qu'il avait un père mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique, cet homme, l'agissement de ce roi? Au verset 3, il nous dit une première chose. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il a regardé celui qu'il a vécu selon la volonté de Dieu, David. Et pourtant, nous savons qu'est-ce qu'il était David, qu'est-ce qu'il a fait David. Mais il avait devant lui cet exemple et il n'a pas voulu enlever les yeux de lui. Et vous savez, dans notre propre vie, hein, il y en a beaucoup de gens qui ont fait la même chose. Vous en souvenez, Josué. Josué qui parlait au peuple. Il a dit, vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Et il a dit, maintenant vous êtes là réunis, je suis arrivé au bout de mon ministère. Vous êtes dans le pays promis, bon maintenant vous devez vous conduire vous-même. Et je vous dis à vous, je dis moi je vais servir le Seigneur. Vous êtes là pour choisir, qui voulez-vous choisir? C'est à vous de choisir, c'est à nous de choisir qui voulons-nous servir. Qui voulons-nous servir pour que notre vie soit réussie? Et c'est le verset que tout le monde connaît, c'est ce qu'il a répondu Josué. Il a dit, je m'en fous ce que vous faites, hein. Je vous conseille, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et d'ailleurs, la fin de Josué, ça a été une fin agréable. Pourquoi? Parce qu'il servait le Seigneur. Et lui, il a choisi le bon côté. Au lieu de faire comme son père il a fait à casa, il a choisi le bon côté. Hein, vous vous souvenez de cette autre femme qu'il avait choisi le bon côté avec Jésus. Ils avaient invité Jésus à manger. Ils ont tout préparé. Et à la fin du repas, bon, Jésus... il leur a donné un enseignement. Et alors, il y avait ces deux sœurs. Il y en a une qui s'affarait. Il voulait tout mettre en place avant d'écouter Jésus. Et alors, il lui dit à Jésus, « Mais Jésus, dis à ma sœur qu'il m'aide là. » Et Jésus, il lui a dit, « Mais ta sœur, il a choisi le bon côté. » Quel est le bon côté? C'est d'être au pied du Seigneur. Car c'est là notre place. Il y a le missionnaire américain qui m'a conduit au Seigneur. Il faisait pareil. On allait chez lui, on mangeait tous ensemble. À la fin du repas, on se réunissait tous. On laissait tout sur la table. C'était la parole de Dieu. Et une fois que l'enseignement était terminé, tout le monde se mettait. C'est ça le bon côté. Et lui, il a choisi ce côté-là. Quel est le côté que nous choisissons lorsqu'il y a des enseignements de Dieu? Il a été courageux, lui, parce qu'il a été contre, pas contre son père, à l'opposé d'où son père il a été. Et c'est ça le bon côté que Dieu nous demande de prendre. On vit dans un monde méchant, un monde qui nous fait des misères. Et vous savez, c'est ça le monde aujourd'hui. Pour le 1er décembre, ça va être un missionnaire algérien. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, Algérie 15 églises chrétiennes ont été détruites. Et alors, lui, c'est en Algérie. Il paraît qu'en Algérie, c'est les pays où les chrétiens, ils avancent. Tous les jours, il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur. À se demander pourquoi, n'est-ce pas? Et pourquoi les chrétiens, ils sont si persécutés? Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Il nous l'a dit, vous serez haïs. Ils m'ont haï et vous serez haïs. Et c'est exactement ce qui se passe, pas seulement en Algérie, mais partout dans le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme eux. Nous ne vivons pas de la même manière qu'eux. Nous sommes différents. Jésus même, il nous l'a dit, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du monde. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous a dit, fuyez ce monde, car c'est lui qui a mis du monde. Hein? Il dit quoi la suite du verset? Il est ennemi de Dieu. Il a choisi les bons côtés. Voilà en quoi il a été courageux. Parce qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël, il était complètement à la dérive. Et lui, il a choisi le bon côté. Et il y a aussi au verset 4, la deuxième partie, il dit, il fit disparaître les hauts lieux. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Et dans 2 Chroniques 16 à 18, il nous est dit même qu'il a purifié les temples. Imaginez-vous dans quel état il était le peuple d'Israël. Mais lui, il a choisi, il a mis en place les choses qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il a mis Dieu à la meilleure place. C'est le peuple de Dieu. Et alors il a abandonné toutes les choses que le peuple juif il était en train de commettre. Il a remis les vraies priorités. Et dans notre propre vie en tant que chrétiens, nous devons remettre les vraies priorités. Si nous sommes chrétiens, car si nous ne sommes pas chrétiens, où est-ce qu'ils sont nos priorités? Mais c'est dans le monde. Notre réussite, belle voiture, belle maison, de l'argent, un bon métier, les autres choses. Mais la Bible nous le dit clairement, cherchez d'abord, avant moi-même, avant ma famille, avant toute chose, d'abord Dieu. Jésus, il a dit, c'est lui qui aime son père, sa mère, sa famille, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Dieu, il faut qu'il soit en avant de toute chose. Parce que lui, il ne s'est pas tiré en arrière. Hein. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Pour qui? Pour un être misérable comme moi, je suis. J'ose pas vous dire être misérable comme vous êtes. Je parle de moi. Et il l'a fait. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait pour? Et qu'est-ce que Dieu me demande? Est-ce qu'il me demande de faire des grandes choses? Non, il me dit seulement, fais-moi confiance. C'est ça que Dieu nous demande. Hein? Voilà pourquoi lui, il a détruit tous ces hauts lieux, tous ces idoles, toutes ces statues. Et alors je me suis demandé, n'y a-t-il pas des idoles, des statues, des hauts lieux dans nos propres vies? Je vous ai déjà raconté cette histoire du pasteur, qu'il avait une très belle télé. Et alors à un certain moment, il a dit, c'est pas bon que j'ai la télé à la maison. Je vais m'en débarrasser. Et le dimanche au culte, il a dit, celui ou celle qui veut une télé, qui vienne me voir. Pour lui, c'était mauvais, mais pour les chrétiens qui étaient dans la salle, non. C'est ça. N'y a-t-il des hauts lieux, des idoles dans notre propre vie? Lui, il a tout pris et il a cassé. C'est ça que nous devons choisir. Et c'est être courageux de prendre cette décision-là, de détruire tout ce qu'il y a qui nous éloigne de Dieu. C'est ça ce qui compte. Hein? La priorité à Dieu. Et il y a aussi la deuxième partie du verset 4. Il dit, il mit en pièces les serpents d'airain et il l'appela Nehushtam. Encore une fois, je vous demande pardon pour ma prononciation hébraïque. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en pièces les serpents d'airain. Vous en souvenez, les serpents d'airain, ce qu'il avait fait? C'était avec Moïse. Ici, Moïse l'est passé depuis les temps. Hein? Mais il y a eu des serpents que Dieu avait envoyés parce que le peuple, il continue à se rebeller et tout. Et alors, Moïse, il a prié et Dieu lui a dit, fais-toi un serpent d'airain. Mets-le au milieu du camp et tous ceux qui ont été mordus, ils ont qu'à regarder les serpents et ils seront guéris. Ils ont fait ça, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Et ces serpents, nous savons que c'est une image de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Hein? Regarde à Jésus et tu es sauvé. Malgré tous tes manquements, malgré nos péchés. Mais c'est ce qu'il y a, c'est que le peuple juif, il a gardé les serpents d'airain. Il l'a gardé et il donnait des prières, il s'est prosterné, il offrait des parfums à ses serpents. Un souvenir, pourquoi? Parce que, là, voilà. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les choses comme il faut. Des fois, ça nous arrive à nous aussi, hein. On voit quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bien. On lui dit, oui, mais c'est pas grave, c'est un tout petit péché. Le péché, c'est le péché. Et lui, il a eu le courage d'abattre ce serpent-là. Et il a dit, d'ailleurs, il nous a dit les mots qu'il a appelés, Nehushtam, hein. Ça signifie morceau d'airain. Tandis que eux, ils disaient que c'était un morceau venu de Dieu. Lui, il a complètement enlevé le mot venu de Dieu. C'est un morceau d'airain. Il faut appeler les choses comme elles sont. Et les gens, encore une fois, ils s'est prosternés. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est mettre les choses, encore une fois, à la place dont il ne faut pas. Qui devons-nous adorer? Mais il n'y a que Dieu. Et pas les choses qui représentent, soi-disant. Les commandements, ils sont clairs. Hein? Vous le lisez, ce que Dieu il a donné. Hein? Tu ne te feras pas d'image taillée. Le commandement est clair, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'il y a des idoles. On ne peut pas représenter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Il n'y a pas de photos. Jésus, c'est pareil. On le représente d'une différente façon. Il n'y a pas de photos. On ne sait pas comment il était. Mais c'est clair. Tu ne te feras pas d'image taillée. Et c'est ça, c'est l'idolâtrie. Hein? On appelle ça dans beaucoup d'endroits, il y a les reliques. Il ne faut aller pas trop loin, hein, à la basilique. Il y a les reliques d'un évêque, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle. Hein? C'est les manteaux, je crois. Voilà, il l'expose une fois par an. Hein? Voilà. Et c'est une relique, les gens, ils vont là, ils adorent, ils se prosternent, ils prient. Il faut prier que Dieu. Il faut prier que Dieu. pendant les croisés dans le pays de Palestine. Ils ont ramené des morceaux de bois en disant « c'est la croix de Jésus-Christ ». Et il y a dans toutes les églises, il y a ces reliques-là. Et les gens, ils se prosternent. Lui, il a appelé les choses comme il faut. Ceux que vous adorez, ceux sur lesquels vous priez, pour lesquels vous prosternez, c'est juste un morceau de rein. Il ne représente rien. Celui qui représente quelque chose, c'est Dieu. C'est la croix. C'est là qu'il faut prier. C'est là qu'il faut confesser nos péchés. C'est là que Dieu agit. C'est là que nous recevons la force, la puissance, la nouvelle vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est là. Et il faut adorer que Dieu, pas autre chose. Et il nous est dit encore au verset 5, il dit, « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il a mis toute sa confiance en l'Éternel, pas en d'autres choses. Ça ne lui intéressait pas tous les grands hommes d'État, tous les grands conquérants et tout ça. Non, il s'est confié qu'en Dieu. Il avait besoin de quelque chose, il s'est tourné vers Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. Car si vous enlevez Dieu, qu'est-ce que c'est qu'il nous reste? Qu'est-ce que c'est qu'il vous reste? Nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant, qui nous dit en continuation, j'ai de l'avenir pour toi. Si nous faisons confiance à Dieu, quel est l'avenir que Dieu a pour moi? Mais c'est la vie éternelle. C'est une vie éternelle auprès de lui, dans le ciel. Une vie de félicité, de paix, de repos. Voilà. Il n'y a que lui que nous pouvons faire confiance. Pas ici-bas, dans cette terre, il n'y en a pas. Bientôt, il va y avoir les élections, n'est-ce pas? Et les gens, ils vous diront, oui, fais-moi confiance, je t'ai fait ça et ça et ça et ça. Voilà. Sur qui nous devons compter? Il n'y a que sur Dieu. Sur Dieu. Et au verset 6, il nous est dit, « Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Il marcha dans les bois, dans le droit chemin. » Ce n'est pas qu'il était du bon côté, mais il y marcha dans le bon chemin. On ne peut pas demeurer attaché au Seigneur et attaché au monde. Jésus, il a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Il faut l'un ou l'autre. Lui, il est resté attaché à l'Éternel. Attaché. Comme dans les cantiques, attaché à la croix. C'est à la croix que nous recevons toutes ces choses-là. Hein? Mais pour être attaché à Jésus, à la croix, il faut obéir. On ne peut pas être attaché à Jésus-Christ et ne pas faire ce qu'il nous dit de faire. Parce que ce n'est pas en connaissant la Bible qu'on est sauvé, mais c'est en la mettant en pratique. C'est en la mettant en pratique. En obéissant. Les gens, ils disent, ah, je vais offrir à Dieu de l'argent, du temps. Mais Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu, il veut l'obéissance. Et Samuel, il nous l'a répété. Il dit, Dieu ne désire pas les sacrifices, mais l'obéissance. Vous en souvenez ce qu'il y arrivait au roi, au Saül? Dieu lui a dit, tu vas vouer tout interdit, tu vas tuer, tu vas enlever ceux qui ne croient pas à moi. Et lui, il a commencé à sauver les chèvres, les bœufs et tout ça. Samuel arrive, il entend toutes ces choses-là. C'est quoi ça? Ah, il a dit, oui, je l'ai gardé pour les sacrifier à l'Éternel. Il a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Voilà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel lui avait dit aussi, tu vas m'attendre. Quand je vais arriver, je vais offrir les sacrifices. Tu vas m'attendre avec toute l'armée. Le temps il passe et Samuel n'arrive pas. Alors Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le peuple commence à s'impatienter. Hein, je vais offrir moi-même les sacrifices. Il offre les sacrifices. Qui c'est qui arrive? Samuel. Et là, c'est pareil. Ne t'ai-je pas dit d'attendre? Vous savez, Dieu, il arrive toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Hein. C'est nous qui perdons la patience. Et d'ailleurs, c'est lorsque nous sommes au bout que Dieu il intervient. Et tout ça, pourquoi? Pour que nous puissions le glorifier. Jusqu'à la fin, nous devons tenir bon. C'est ce qu'il a fait. Hein? Et au verset 7, encore une fois, il nous est dit, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. » Pourquoi est-ce qu'il a réussi? Mais parce que il est resté attaché au Seigneur, parce qu'il a fait tout ce que le Seigneur lui disait. Hein? Et tant que Dieu y sera avec nous, nous ne connaîtrons jamais l'échec. Peut-être les gens autour de nous diront, mais regarde dans le double, il est dans l'échec, il est ça. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'échec. Tant que Dieu est avec nous, nous ne connaîtrons jamais l'échec. Jamais, jamais. Si nous sommes avec lui, il sera avec nous, il travaillera avec nous, il travaillera pour nous et il travaillera en nous. Mais il faut croire toutes ces choses-là. Hein? Et c'est ça. Et si nous faisons ces choses-là, il y aura des miracles dans notre propre vie que peut-être nous ne nous apercevons même pas. Il y a tellement de choses qui arrivent dans notre vie hein, que nous n'apercevons même pas la main de Dieu. Il y a aussi la deuxième partie de verset 7. Il nous est dit, il se révolta contre les rois d'Assyrie et il ne lui fut plus assujetti. Pourquoi il se révolta? Parce que Dieu il était avec lui et cet Assyrien-là, ils assujettissaient le peuple, ils le faisaient payer en tribut et toutes ces choses-là. Mais il a fait les choses que Dieu il lui a demandé de faire. Et alors Dieu, automatiquement, il a été en lui. Il savait que Dieu le dirigeait. Et alors il se révolta et il a chassé cet ennemi qui l'opprimait en continuation. Hein? Et vous savez, dans ces choses-là, le Seigneur, il est toujours avec nous. Et il agira en toutes choses. Un peu comme les trois amis de Daniel. Vous en souvenez, les trois amis de Daniel? Il avait construit cette statue-là. Et il a dit, tous ceux qui n'adoreront pas la statue, je vais le brûler, je vais le jeter dans cette fournaise. Les trois amis de Daniel, ils étaient là parce qu'ils n'ont pas voulu l'adorer. Alors, il les a ramenés là, il a dit, bon, voilà, vous êtes devant la fournaise, adorez la statue. Et il a dit, sache au roi que même si tu nous tues, nous n'adorerons pas la statue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'il a fait les rois, il les a jetés dans la fournaise. Qu'est-ce qu'il a fait les rois? Il a regardé dans la fournaise. Et au lieu de trois personnes, il a vu quatre personnes. Un peu comme Daniel dans la fosse au lion, vous en souvenez? Le roi, il a jeté dans la fosse au lion. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Il s'est levé. Il s'approche de la force. Il a dit, Daniel, ton Dieu, est-ce qu'il t'a sauvé? Il a dit, oui, roi. Les lions, ils étaient à ses pieds. Et vous savez, un lion, hein? Voilà ce que le Seigneur il nous dit. Hein? Que nous puissions dire aussi, sache que nous n'adorons pas. Pour terminer, je vais vous lire un peu un autre exemple. Dans Josué, vous connaissez ces choses-là. Josué, regardez Josué, chapitre 1. Ce que Josué, c'était leur, c'est celui qui a remplacé Moïse. Et vous savez, lorsque Dieu remplace, c'est pour que son heure, il puisse, son œuvre puisse continuer, un peu comme ce qu'il a fait avec Élisée. Alors, Josué, regardez ce qu'il dit, Josué, chapitre 1. Je vais vous le lire parce que c'est du verset 5 jusqu'au verset 9. Dieu il dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et c'est la même promesse qu'il nous fait à nous si nous accomplissons la volonté de Dieu, si nous visons si nous vivons pour lui, en lui, c'est qu'il sera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Jésus, avant de s'en aller, il a donné cette grande promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre toutes ces choses-là. Amen. Amen.